Mais dira-t-on, s'il a véritablement classé et décrit des espèces de sociétés, pourquoi les a-t-il définies ainsi et leur a-t-il donné ces noms? Ce n'est pas en effet d'après la division du travail, ce n'est pas d'après la nature du lien social qui les distingue et les nomme, mais uniquement d'après la constitution de l'autorité souveraine. Ces divers points de vue ne s'opposent pas entre eux. Il était en effet nécessaire de caractériser chaque type par la propriété qui, en lui, est essentielle et dont les autres sont la conséquence. Or, à première vue, la forme du gouvernement semble remplir cette condition. Il n'y a rien en effet de plus apparent dans la vie publique, rien qui attire davantage les regards de tous. Le chef de l'État se tenant, pour ainsi dire, au sommet de la société, et étant souvent appelé, et non sans raison, la tête du corps social, c'est de lui, croit-on, que tout dépend. Ajoutez à cela que, les philosophes n'ayant jusqu'alors rien découvert d'autre dans les choses sociales qui pût être classées par type et par espèce, il était difficile à Montesquieu, bien que sa tentative fût nouvelle, de se dépouiller tout à fait de leur manière de voir. Là est la raison pour laquelle il s'est appliqué à distinguer les formes de société d'après les formes de gouvernement. Certes, bien des objections peuvent être faites à la méthode qu'il a suivie. Ce caractère n'a par lui-même rien de propre ni de particulier. Comme nous l'avons déjà montré, la nature du pouvoir suprême peut subir des modifications, tandis que celle de la société demeure inchangée ou inversement. Elle peut être une et identique dans des sociétés qui diffèrent extrêmement les unes des autres. Mais l'erreur se trouve plutôt dans les termes que dans les choses. Car en dehors de ce qui touche au régime politique, Montesquieu énumère beaucoup d'autres caractères qui lui servent à distinguer les sociétés les unes des autres. Bien mieux, si l'on néglige les termes dont il se sert, on ne trouvera sans doute dans tout l'ouvrage rien de plus vrai ni de plus pénétrant que cette classification dont les principes peuvent être conservés même aujourd'hui. Non seulement, en effet, les trois formes de vie sociale qu'il a décrites constituent trois espèces réellement distinctes, mais de plus, leur description telle qu'on la trouve dans son livre exprime avec une certaine part de vérité leur nature et leurs différences propres. Certes, l'égalité et la frugalité n'ont pas été dans les cités antiques aussi grandes que l'a cru Montesquieu. Il est certain pourtant que, si on les compare avec les peuples d'aujourd'hui, les intérêts privés y ont eu une étendue très restreinte, tandis que les affaires de la communauté y tenaient une place considérable. Il a admirablement compris qu'à Rome et à Athènes, chaque citoyen eut fort peu de choses en propre et que ce fut là la cause qui assura l'unité de la société. Chez nous, au contraire, les bornes de la vie individuelle se sont étendues. Chacun de nous a sa personnalité, ses opinions, ses mœurs, sa religion. Il se distingue profondément lui-même et tout ce qui touche à lui de la société et les choses publiques. La solidarité sociale ne peut donc être la même ni avoir la même origine. Elle vient de la division du travail, qui rend les citoyens et les ordres sociaux nécessaires les uns aux autres. Enfin, avec beaucoup de sagacité, il a nettement distingué des autres ce type d'organisation qu'il appelle gouvernement despotique. Car l'empire des Perses ou des Turcs n'a rien de commun avec les cités grecques ou italiques, ni avec les nations chrétiennes de l'Europe. Mais dira-t-on, le gouvernement despotique n'est qu'une forme de la monarchie, car le roi, même en monarchie, a le droit de modifier les lois. C'est donc sa volonté qui est la loi suprême. Il faut remarquer cependant que la structure des sociétés y est tout à fait différente. Dans l'état despotique, elle ne présente pas cette différence de conditions qui est particulière à la monarchie. Par ailleurs, il est sans importance qu'en monarchie le roi possède ou non le droit de modifier les lois, car il n'en a pas réellement la possibilité, pour cette raison que la puissance des ordres limite son propre pouvoir. On a objecté avec raison à Montesquieu qu'il n'a existé nulle part d'empire où le pouvoir du despote ait été sans mesure. Mais l'auteur corrige lui-même la première définition qu'il avait donnée et reconnaît que, jusque sous le gouvernement despotique, il y a aussi certains tempéraments apportés au pouvoir souverain, mais qui sont autres que dans la monarchie, car ils ont leur source non dans l'institution des différents ordres, mais dans l'autorité souveraine et unique dont jouit la religion non seulement auprès du peuple, mais même dans l'esprit du despote. Il est hors de doute que dans ces sociétés, la religion possède réellement un tel pouvoir, car non seulement elle ne dépend pas de la volonté du prince, mais c'est au contraire le prince, ainsi que notre auteur le remarque pertinemment, qui reçoit précisément d'elle son pouvoir exorbitant, rien d'étonnant par suite s'il est limité par elle. Si l'on veut comprendre pleinement la manière de voir de Montesquieu sur ce sujet, il faut au précédent un quatrième type que ses interprètes omettent généralement. Il mérite de nous arrêter, car c'est de lui que la monarchie est sortie. Il comprend les sociétés qui vivent de la chasse ou de l'élevage. Ces dernières diffèrent en effet des autres par de nombreux et de remarquables caractères. Leurs membres sont très peu nombreux, la terre n'est pas partagée entre eux, Elles n'ont pas de loi, mais des coutumes. Ce sont les vieillards qui y possèdent l'autorité suprême, mais ils ont un tel souci de la liberté qu'ils ne tolèrent aucun pouvoir durable. Il est certain que telle est la nature des sociétés inférieures qui, pour cette raison, peuvent être appelées une démocratie inférieure. Montesquieu divise ce type en deux variétés. Quand les hommes sont dispersés en petites sociétés de ce genre qu'ils ne sont unis entre elles par aucun lien social, il les appelle peuples sauvages. Il les nomme barbares quand elles se réunissent en un tout. Les premières s'adonnent plutôt à la chasse, les autres mènent la vie des peuples pasteurs. La classification des sociétés telle que Montesquieu l'a conçue est représentée par le tableau suivant. Société, qui possède une constitution définie du pouvoir souverain, monarchie, république, aristocratie, démocratie, gouvernement despotique. Sans constitution définie du pouvoir souverain, peuple barbare, peuple sauvage. Il suffit d'avoir sous les yeux ce tableau et les multiples variétés de peuples qui l'englobent pour comprendre que Montesquieu ne s'est pas borné à reprendre avec quelque infidélité la classification d'Aristote, mais qu'il a édifié une œuvre nouvelle.